11h01 minute dans le point de max. À Québec, c'est moins 17, ressenti moins 28 actuellement. Ce soir et cette nuit, ce sera moins 20 degrés au thermomètre. Fait qu'avec le vent, ça va être encore plus frais que ça. Demain, mercredi, c'est moins 12, 30% de possibilité d'averse. Mercredi, moins 5 avec de la neige. Puis vous devinerez que quand j'ai 30% de possibilité d'averse à moins 12, là, j'ai pas senti le besoin de préciser que ce serait de la neige. Mercredi, c'est moins 5 avec de la neige. Jeudi, moins 4, neige intermittente. Et vendredi, c'est moins 5 avec des nuages. Sur la route, sur ma carte, ça semble généralement beau, mais par texto au 418-971-1021, on parle d'un accident en 4 Nord à la sortie du pont, hauteur Hochelaga, donc dans la voie de droite. Fait que si vous êtes dans le secteur des ponts, ça pourrait avoir un impact sur vous à la circulation. C'est l'heure de l'open mic avec Audrey Pinchot. Audrey, il reste deux dodos?
Deux dodos avant ton show, Max.
As-tu hâte?
Ben, je commence à être énervé, mais si je suis vraiment honnête avec toi, je m'en rends pas tant compte.
Sais-tu, puis on parle du show de MGK en passant, pour ceux qui...
Hey, comme tous les jours, ben, hein, c'est ça fait changement.
Généralement, je pense que vous êtes au courant, là, mais c'est mercredi soir que ça se passe au Centre Bell. Puis moi, c'est vraiment samedi que j'ai allumé. Tu sais, quand tu te mets en mode, j'ai un show qui s'en vient dans quelques jours, puis que là, certains diront que j'écoute tout le temps que du MGK de toute façon, c'est pas tout à fait vrai, mais là, c'est comme... Là, c'est la setlist du show avec les tunes en ordre, puis...
Tu vois, moi, je suis pas encore rendu là. Ouais. Probablement que mercredi matin, je vais allumer.
Ben, dans l'auto, en route vers Montréal,
sûr,
on va...
C'est sûr que oui.
J'ai hâte.
Ça va être le fun. Ça va être un beau trip.
Très, très hâte. De quoi on parle aujourd'hui dans l'open mic?
Ce matin, on parle d'une innovation qui est née chez nous, à Québec, qui veut révolutionner le diagnostic en santé mentale et neurologique. On parle souvent de santé mentale, mais tu sais, c'est un diagnostic qui se fait un peu par observation. C'est-à-dire que tu vas consulter, puis à un moment donné, bien là, à force de consulter, on dirige, on va faire certains tests, mais puis en même temps, je sais pas de quoi je parle, mais c'est plus l'observation qu'autre chose. Tandis que là, on a fait une avancée scientifique majeure qui pourrait transformer la façon dont on diagnostique les troubles neurologique de santé mentale. C'est un outil, en fait, c'est une nouvelle approche, je vais le dire comme ça, qui est fait avec l'analyse des signaux rétiniens à haute densité. Là, je peux même pas t'expliquer encore ce que ça mange en hiver.
Ben, moi, ce que
mais
je
par
peux...
les yeux,
ouais, c'est ça.
On est capable de déterminer certains troubles neurologiques. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça s'est développé chez nous dans notre cours à l'Université Laval. Donc, ce matin, on a invité quelqu'un qui peut peut-être nous dire justement ce que ça mange en hiver, nous expliquer comment ça fonctionne. C'est quelqu'un de qui le CV est long, là, Marc Hébert, qui est professeur titulaire au département d'ophtalmologie, ORL, chirurgie cervico-faciale, faculté de médecine à l'Université Laval. Il est directeur scientifique aussi adjoint à la recherche clinique pour le Centre de recherche cerveau, qu'on connaît très, très bien. L'axe de recherche neuroscientifique, sciences cliniques et cognitives. Marc, bon matin.
Bon matin.
Comment ça peut prendre de temps faire des découvertes comme celle-là, celle dont on va parler ce matin?
Moi, j'ai débuté cette recherche-là en
94. Donc, oh, bye-bye, OK.
Donc, on parle de 30 ans passés. Et évidemment, à l'époque, parler de rétine, de parler de l'œil pour diagnostiquer ou aider au diagnostic d'une maladie psychiatrique, c'était pas nécessairement évident. Donc, on a commencé nos recherches avec la dépression hivernale. Donc, on est là-dedans en ce moment.
Pile.
On est pile là-dedans. Et on se posait la question, pourquoi on n'est pas tous affectés par les changements de lumière? On sait qu'à l'automne, à l'hiver, par exemple, en mi-décembre, on va avoir seulement 8h30 de clarté par rapport à 16h au mois de juin. Donc, on manque tous de lumière en hiver, mais on n'est pas tous affectés par la déprime saisonnière. Et nous, on s'est dit peut-être que nos yeux s'adaptent aux changements lumineux, comme chez certains animaux qui vivent dans le Grand Nord. Et la sensibilité à la lumière augmente l'hiver par rapport à l'été. Donc, on s'est intéressé aux yeux, à la rétine. Et je me souviens, le chercheur spécialisé en ophtalmologie que j'avais approché pour étudier la sensibilité à la lumière me disait, ben, je crois pas à ce que tu fais, mais la machine est là. Apprends à l'utiliser. Débrouille-toi.
Amuse-toi.
Amuse-toi, tu peux pas la briser. C'était ça son... Oh, lui, il travaillait beaucoup chez l'animal, peu chez l'humain. Et finalement, il avait raison En partie parce que les personnes qui n'étaient pas affectées de déprime saisonnière, le changement de sensibilité ne s'opérait pas entre l'hiver et l'été. On garde la même sensibilité à la lumière, mais les gens qui avaient de la déprime hivernale perdaient une sensibilité à la lumière en hiver,
okay,
qui revenait à l'été, donc se normalisait à l'été. Et plus tard, on a découvert qu'en utilisant la luminothérapie,
oui,
lorsqu'ils étaient en rémission par luminothérapie, la sensibilité à la lumière se normalisait aussi à ce moment-là. Donc, on avait vraiment un effet biologique de la lumière. On était capable de le mesurer à travers la rétine. La rétine, c'est la partie neurale de l'œil qui tapisse le fond d'œil. C'est là où on retrouve nos photorécepteurs qui captent la lumière, transforment un signal électrique qui est envoyé au cerveau par le nerf optique pour générer le sens de la vision. Ce petit signal électrique-là, on est capable de le capter avec une électrode sur l'œil. C'est un petit fil de nylon imprégné d'argent minuscule qu'on dépose sur la partie blanche de l'œil. Et ça, ça va capter la réponse. Donc, il faut l'amplifier 50 000 fois parce que c'est vraiment très, très petit. Puis, on peut comparer le signal comme un électrocardiogramme.
Okay.
Sauf que le cœur bat de façon autonome. Pour les yeux, il faut stimuler par des flashs lumineux et on capte la réponse que la rétine va produire avant de l'envoyer au cerveau.
Mais là, ça fait... C'est né à Québec en 2015, là, de ce que je vois. Ça fait donc 10 ans. Comment ça, on est dans les... Moi, c'est la première fois que j'en entends parler, là. Puis on nous l'annonce beaucoup comme si, ben maintenant, ça allait nous aider à diagnostiquer des troubles de santé mentale. Ce qui est quand même gros dans une société en ce moment où on a de la difficulté à avoir des ressources, où on sait pas toujours ce qu'on a, où on sait pas par où passer. Fait que commençons, comment ça en parler, là? Sais-tu que maintenant, on l'utilise pour vrai au day-to-day ou...
Bien, en fait, nous, nos recherches, quand je suis arrivé à Cerveau, je fais la rencontre d'un psychiatre qui était Michel Maziad et une autre professeure en biostatistique, Chantal Mérite. Et là, ensemble, on a fait une étude. On a été les premiers à avoir le CQDM, c'est le consortium de recherche de la découverte du médicament, qui nous ont financé en nous disant, et on avait eu 2,1 millions en 2009, il nous disait, c'est soit le pire projet qu'on a jamais vu ou c'est le meilleur qu'on a jamais vu, mais on hésite entre les deux. Parce que eux autres aussi, ils se demandaient comment diagnostiquer une maladie psychiatrique à travers les yeux.
Mais oui.
Et finalement, ils nous ont octroyé la subvention, mais à tous les trois mois, ils nous suivaient. Il fallait faire un rapport parce que... Il ne voulait pas tout miser le 2,1 million d'un coup.
Il ne croyait pas à 100%.
Non, il hésitait encore. Et finalement, on a fait 200 contrôles, 150 patients avec schizophrénie, 150 avec bipolarité, 138 avec dépression majeure. Donc, c'était un très, très gros échantillon. Et ce qu'on a découvert, c'était qu'on était capable de différencier la schizophrénie d'un contrôle avec des précision de plus de 90%.
Mais toujours avec des signaux lumineux?
Oui, juste des flashs lumineux. On envoie ça dans l'œil et l'œil réagit, produit un signal électrique qu'on capte. Et ce signal-là, bien, si vous avez déjà vu des électrocardiogrammes, on voit ça dans des émissions, on les voit. Là. Le signal, bien, on peut identifier des pics, des amplitudes, des latences de ces pics-là. Et donc, c'est plusieurs paramètres qui sont possibles de mesurer dans le signal rétinien aussi. Donc, ces paramètres-là vont être différents. Il va y avoir des petites anomalies si vous souffrez de schizophrénie qui ne seront pas tout à fait les mêmes si vous souffrez de bipolarité. Et là, nous, on a été capable de faire un diagnostic différentiel entre les deux avec 86 % de précision.
Quand même.
Au début, vous disiez l'évaluation en psychiatrie, le diagnostic se fait par des entrevues cliniques.
Oui.
Donc, ça reste quand même subjectif. Mmh. Et dans les 5 premières années, 50 % vont changer de diagnostic en
c'est
schizophrénie.
Beaucoup quand même. Puis,
oui, parce qu'il y a beaucoup de symptômes communs, il y a de la superposition. Et notre test permet d'aider au diagnostic. Je ne peux pas prendre le test puis aller sur la rue puis dire vous êtes schizophrène, bipolaire, dépression majeure.
On s'en sert pour valider.
Exactement. Ça nous prend quand même l'évaluation clinique. Il faut que le psychiatre nous dise on hésite entre schizophrénie ou bipolarité. Et nous, on va donner des pourcentages de probabilité que ce soit un ou l'autre.
Est-ce qu'on pourrait en arriver à un point éventuellement où le point de référence deviendrait votre technique puis qu'après ça, la validation se ferait avec quelqu'un d'autre?
Il faut toujours avoir la part du clinicien au départ, parce que nous, il faut avoir vraiment un diagnostic préliminaire.
Pour être dirigé dans le test?
Oui. Puis après ça, nous, on utilise l'algorithme qui est pour détecter schizophrénie versus bipolarité, pour d'autres choses. Par exemple, on vient de faire le TDAH, ça va être un autre algorithme. Okay. Il y en a qui l'ont testé en trouble du spectre de l'autisme, ça va être un autre algorithme.
Fait qu'on pourrait pas prendre une personne puis dire, là, on teste cette personne-là puis on va lui dire tous les problèmes qu'elle a.
Et non, c'est ça. Ça prend le bon algorithme et c'est ça que nous, on a développé, qu'on a breveté cet algorithme-là pour le diagnostic différentiel schizophrénie et bipolarité. Mais c'est une aide au diagnostic, ça fait pas le diagnostic. On donne des probabilités que ce soit un ou l'autre.
Mais moi, je trouve ça quand même bien parce qu'on entend souvent dire aujourd'hui, mettons, le TDAH, c'est le mal du siècle. Tout le monde, oui, tout d'un coup, est TDAH. Mais tu sais, en réalité, souvent, tu as autre chose que ça. On a fait une... C'est un exemple complètement banal, un peu champ gauche, mais on a fait une entrevue il y a quelques semaines avec une femme qui avait le syndrome de la Tourette. Puis elle nous expliquait que avant d'en arriver au syndrome de la Tourette, il teste pour toutes sortes d'affaires, puis il passe tout, dont TDAH, dont, oui, bipolarité, dont puis TPL, puis parce qu'ils savent comme pas trop ce qui crée certains troubles. Fait que c'est, oui, comme une annulation au fur et à mesure de certains symptômes jusqu'à ce qu'il reste juste ça. Mais j'ai l'impression, oui, qu'avec ce que vous avez inventé, on est un peu ailleurs. Hein?
Bien, souvent, c'est ça exactement. Ils passent tous les diagnostics et afin, par exemple, ils arrivent au TDAH, mais ils doivent éliminer un paquet d'autres choses, oui, avant d'y arriver. Là. C'est des diagnostics par exclusion qu'on appelle.
C'est comment, comme chercheur, d'avoir ce projet-là en tête et de se faire dire soit c'est merveilleux, soit c'est la pire idée.
T'sais, sur 30 ans, là,
exact,
c'est long.
De travailler là-dessus, est-ce que en dedans de soi, on a comme un petit quelque chose qui dit « je sais que j'ai raison, je sais que je m'en vais quelque part, je sais ». Est-ce que des fois, c'est démotivant? Est-ce que comment ça... au fil des années, là?
Bien, en fait, il faut toujours un peu se battre, parce que même ma première subvention que j'ai eue dans ce domaine-là en 2002, c'était écrit clairement « personne ne croit ce que vous faites, mais si ça marche, ça peut être
révolutionnaire ».
Révolutionnaire. Ah, donc, ils m'avaient donné la subvention. Puis je me souviens, j'avais des collègues qui avaient évalué ma demande, puis ils avaient dit « ben, monte pas un trop gros montant comme ça, ben peut-être qu'ils vont te donner une chance ». Et c'est ce qui est arrivé, ils m'ont donné la chance, donc la chance au coureur. Mais ça a pris des années en psychiatrie ou des gens en psychologie. Ils ne croyaient pas du tout à ce que je faisais. Mm. C'est clairement ça. Et ça a pris la démonstration dans la dépression saisonnière où on a vraiment démontré l'effet de la lumière, des effets biologiques. Puis même aujourd'hui, c'est encore un peu vu comme des fois des placebos, des effets placebos. Mais maintenant, on sait que la lumière va affecter une douzaine de régions dans le cerveau. Donc, la mémoire, notre capacité à focusser.
Il y a des gens qui pensent encore que c'est un mythe, la dépression saisonnière. Ben ouais, novembre, oui, arrive. Hey, crains-toi, donne-toi un coup de pied dans le derrière, là, ça va être correct. Mais pourtant, c'est vrai qu'il y a des gens que ça affecte énormément.
Oui, il y en a qui pensent que c'est juste psychologique, oui, mais ça ne l'est pas. Il y a des changements de neurotransmetteurs dans le cerveau. La sérotonine, qui est très liée à la lumière. Les journées ensoleillées, on produit plus de sérotonine. C'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Là. Mm. C'est un neurotransmetteur, en fait. Mais plus nos niveaux de sérotonine sont élevés, notre humeur est meilleure. Mais les journées ensoleillées, on en produit plus. Puis les journées moins ensoleillées, on en produit moins. Donc, l'hiver, on a tendance à moins produire de sérotonine. Pour certaines personnes, le niveau descend peut-être à un seuil critique qui va générer une dépression.
C'est peut-être moi qui ne vois pas le lien, mais à quel moment on est passé de « Hey, on va regarder la dépression saisonnière via l'œil » à « On va diagnostiquer la schizophrénie » parce qu'on est quand même à deux extrémités, là.
Oui, c'est vraiment deux extrémités. Ce qu'on a fait au départ, c'est avec Michel Mazière, le psychiatre, lui, il étudiait des familles du Saguenay. Vous savez, il y a un effet fondateur au Saguenay qui fait que certaines maladies sont plus présentes et il y a certaines maladies qui sont moins au Saguenay aussi, mais il y en a qui sont beaucoup plus prédominantes. Et il y a des familles qui ont au moins 6 membres de leur famille qui sont affectés de schizophrénie ou bipolarité. Donc, c'est énorme. Et on a regardé les enfants de ces familles-là. On a testé les enfants. Pourquoi les enfants? Bien, parce qu'ils ne prenaient aucune médication. Donc, on a dit, bien, on va voir s'il y a quelque chose, ça ne sera pas dû à la médication. Et on a trouvé une anomalie qui était observable sur le test qu'on faisait, l'électrorétinogramme. Et là, on s'est dit, bien, si on trouve une anomalie chez les enfants qui sont plus à risque de développer une schizophrénie ou bipolarité à cause du bagage génétique familial, donc qui était 10 fois plus à risque, c'est, vous savez que la schizophrénie, c'est 1% de la population.
Non, je ne savais pas.
Bipolarité, 2,5. Donc, c'est Quand on est 10 fois plus à risque, ben c'est beaucoup là, quand même. Et donc, ça ne veut pas dire que ces enfants-là vont développer une schizophrénie, une bipolarité, mais ils semblent être porteurs d'une anomalie qui est favorable au développement, disons. Et là, on s'est lancé, on a dit, bien, on va tester les patients pour voir s'il n'y a pas des anomalies. Mais vu qu'on le trouvait dans la dépression saisonnière, on s'est dit, pourquoi on ne le trouverait pas dans la schizophrénie ou la bipolarité? Mmh. On sait que dans la rétine a besoin de dopamine. Et ces maladies-là semblent liées à des déficits dopaminergiques. TDAH, schizophrénie, bipolarité, il y a un lien avec la dopamine. Et dans la rétine de l'œil, la dopamine est prédominante. Donc, on vient justement de trouver un déficit dans le Parkinson, qui est dopaminergique aussi. Donc, toutes les maladies qui ont un lien avec la dopamine, on semble pouvoir le diagnostiquer à travers l'œil.
Puis j'imagine que ça peut faire une méchante différence quand tu es capable de potentiellement savoir d'avance. Là. Il y a beaucoup de diagnostics qu'on fait sur le tard.
Oui.
Là.
Exactement, parce que plus le diagnostic est précoce, plus les chances de rémission sont grandes. Parce qu'il y a un effet toxique de la maladie. C'est ce que le docteur Mazian m'expliquait tout le temps. Plus la maladie suit son cours, bien, ça a un effet toxique sur le cerveau. Donc, c'est plus difficile d'avoir des rémissions.
Ça dégénère vite.
Ça dégénère, exactement. Donc, plus on va faire un diagnostic précoce, mieux c'est. Et souvent, les gens, souvent au niveau éthique, ils nous disent, ben, les comités éthiques disent, ben, faire un diagnostic trop rapidement, ça met un stigma pour la personne. Mais non, les gens veulent le savoir. S'il y a de quoi à faire,
on va être prévenu.
On va être prévenu puis avoir
le
traitement.
Pour mieux prévenir que guérir, qu'ils
disent.
Ben
oui, exactement. Donc, c'est pas un stigma, c'est vraiment, les gens veulent le savoir. Moi, je fais des tests de rétine aussi en ophtalmologie pour détecter les maladies rétiniennes génétiques. Les gens veulent le savoir s'ils ont un problème ou pas. Donc,
c'est quoi la différence, mettons, au niveau technologique, là, je vais dire, là, avec ce qu'on a comme méthode actuelle en neuroimagerie ou en neuropsychologie? Qu'est-ce que ça vient ajouter, mettons, au quotidien?
Bien, c'est beaucoup plus accessible. Faire un électrorétinogramme, ça demande la petite fibre de nylon. Là, on l'utilise juste une fois, puis on la jette après. Puis l'appareil, ça nécessite un appareil. Là. Et maintenant, on a des appareils portatifs qui sont... qui est possible d'utiliser. Nous, on les a validés récemment. On a même des électrodes maintenant qu'on met sur la peau, juste en dessous de l'œil. Et donc, c'est non-invasif. Et le test peut prendre à peu près, nous, ce qu'on a calculé, à peu près 10 minutes. Parce que
c'est pas douloureux, rien, ça change
non,
rien pour le patient.
Non, c'est pas douloureux. Donc, c'est des tests qui seraient très, très, très accessibles. Puis même au niveau écologique, du fait que tu n'as pas besoin de te déplacer dans un grand hôpital à Québec. Tu peux être au Saguenay, tu peux être à Charlevoix, tu peux être n'importe où, tant que tu as l'appareil qui est portable.
C'est plus rapide.
Ben oui, c'est que tu pourras avoir. Tandis que de l'imagerie, ben c'est dans les grands centres. C'est très, très, très coûteux faire des tests en imagerie. Et ça ne nous apporte pas à date. On n'a pas de diagnostic qui a été fait par des tests en neuroimagerie. Oui, il y a des tests en neuropsychologie qui peuvent être utilisés pour aider au diagnostic, mais ce n'est pas vraiment utilisé en schizophrénie, bipolarité. C'est très coûteux, hein, ces tests-là. C'est long aussi.
Ouais.
C'est peu utilisé.
Comment vous vous assurez que les données qui sont recueillies via l'œil sont bien interprétées ou ne sont pas influencées par des variables externes? Si je pense au stress, à la fatigue, bon, luminosité, ça vous aide visiblement, mais je me dis, tu sais, des fois... je sais pas, il y a tellement de variables, il y a tellement de facteurs que je me dis, c'est sûr que c'est à prendre en compte?
Oui, nous, première chose qu'on a fait quand j'ai débuté mes recherches, c'est de valider la technologie. Donc, on a testé des gens à 2 semaines d'intervalle, à 6 mois d'intervalle, et la précision de la mesure était de 96. Donc, la reproductibilité était à 96. Et là, ça nous a encouragé à faire des tests. Mais souvent, je mentionnais tantôt, on a testé les gens l'été et l'hiver, des gens qui sont pas de dépression, qui ne souffrent pas de dépression saisonnière. C'était exactement le même résultat en été et en hiver. Ça démontre que la technique est très, très robuste, très reproductible. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. L'œil est un petit peu plus petit chez la femme, donc le signal a moins de distance à parcourir jusqu'à l'électrode, donc il perd moins d'amplitude. Donc, il y a un petit... 20% de différence entre les hommes et les femmes. Donc, c'est mieux de séparer les groupes pour faire ces tests-là. et de s'assurer aussi que de mesurer la pupille. On peut avoir des différences de pupille et plus ta pupille est grande, plus il y a de lumière qui entre. Mm-hmm. Donc, on en tient compte dans nos analyses. C'est des covariables qui sont traitées.
Vous êtes sur ce dossier-là depuis de longues années déjà. On a expliqué le parcours en partant de OK, la lumière, l'effet. OK, là, on passe OK, avec la maladie mentale, il y a peut-être des trucs à regarder. Est-ce qu'on arrive au bout de ce filon-là qui déjà a permis des avancées extraordinaires ou bien si encore dans votre tête, vous avez des idées de ah oui, peut-être que ça pourrait nous mener à ça ou à ça?
Bien, en fait, quand on a un test comme ça, nous, on a fait une étude, 2,1 millions, ça coûte peut-être environ 3 000 $ pour un patient. Quand on tombe dans des études cliniques pour valider, pour que ça soit approuvé par Santé Canada, par exemple, là, on tombe dans les 12 000 $ par patient. C'est beaucoup plus onéreux. Il faut faire des études multicentriques, donc dans plusieurs sites pour valider. Nous, on a fait juste nos études à Québec en ce moment. Donc, ça devient important de valider dans différentes populations que c'est universel comme résultat. Moi, je fais en recherche, on en fait une à Lausanne en ce moment, en Suisse, pour justement comparer. Est-ce qu'on a les mêmes résultats? À date, ça semble être concluant. Donc, c'est des études cliniques très, très, très onéreuses. On parle de 20, 25, 30 millions de dollars qu'il faut investir. C'est pour ça qu'on tombe en mode compagnie. Est-ce que vous aviez comme mémo, c'est la compagnie Diamantis, qui développe le test clinique pour être approuvé, par exemple, par Santé Canada. Nous, en recherche, on n'a pas ces moyens-là.
OK. Donc, au moment où on se parle, cette machine-là qui peut nous aider à faire le diagnostic n'est pas à travers le Québec encore. On n'est pas rendu là.
Non, parce que la compagnie poursuit l'étude clinique aux États-Unis, en Australie, en Europe, à d'autres endroits au Canada. Donc, ils ont plus de 20, 25 sites. Mais donc, c'est très, très onéreux. Nous, en recherche, on n'a pas ces moyens-là. Donc, nous, en ce moment, on est allé récemment vers le TDAH parce que c'est vous le disiez tantôt.
C'est le mal du siècle.
C'est le mal du siècle. Puis, on ne sait pas c'est quoi les vrais pourcentages. Mmh. Je pense que le TDAH, c'est un peu c'est un continuum. On est tous plus ou moins TDAH. Mmh. Il y en a plus sévère, il y en a pas très sévère. Et là, ça devient intéressant, je pense, pour nous à développer comme test, puis peut-être moins onéreux aussi au niveau des tests cliniques à faire. Est-ce que ça va être le même test pour les enfants, les adultes? Est-ce que c'est la même chose?
À voir.
Puis comme vous parliez tantôt de comorbidité, il y a des troubles anxieux qui s'ajoutent à ça. Donc, c'est pas si évident. Donc, on va travailler là-dessus. Puis récemment, on a étudié les gens qui ont un début de Parkinson. On a trouvé des marqueurs. Et c'est super intéressant parce que ça pourrait servir d'outil. Parce que le Parkinson, souvent, est diagnostiqué à partir du moment que les symptômes sont présents.
C'est trop tard.
C'est ça. Oui. Si vous aviez un traitement pour le Parkinson, il ne faut pas se rendre jusqu'au tremblement. Il faudrait le faire ou l'appliquer
avant.
Plusieurs années, peut-être 10 ans en avance.
En tout cas, je vous lève mon chapeau parce que je trouve ça... Quand j'ai vu ça rentrer, je me suis dit, c'est trippant que ça soit fait dans notre cours, que ce soit des gens de chez nous qui développent des choses comme ça. Surtout qu'on en parle tellement du fait qu'il y a des troubles de santé mentale, que c'est difficile en ce moment au Québec. Fait que je vous remercie puis je vous lève mon chapeau d'être passé ce matin, vraiment.
Merci de l'invitation, ça m'a fait plaisir.
Merci Marc Hébert, professeur titulaire, département d'ophtalmologie et ORL, chirurgie cervico-faciale, faculté de médecine Université Laval, directeur du laboratoire d'électrophysiologie visuelle et de photobiologie. Entre autres choses, le titre est pas mal plus long que le nôtre.
Définitivement, il sait de quoi il parle.
Merci beaucoup. Au retour, on passe en mode country un petit peu parce que le festival L'Assaut de Montréal a sorti les premiers noms de sa programmation 2026. Je vous rappelle aussi qu'il y a un gros show rock qui a été annoncé au Centre Bell pour le mois d'août 2026. On en rejase également. Petit tour de nouvelles et Pascal CV vient faire son tour. Vous écoutez le Point de Max, il est 10h25.
Le Point de Max.